grand témoin.
Il s'appelle Modeste Rachidi Kayombo Banyangiri. C'est lui que Grand Témoin va vous faire découvrir aujourd'hui. Il est secrétaire général du syndicat central congolaise du travail et porte-parole des syndicats indépendants de l'administration publique. Monsieur Rachidi, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission.
Merci beaucoup, madame.
Avec vous, dans notre entretien, on va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment. C'est vrai que Rachidi Kayombo est connu en RDC, ainsi que c'est un syndicaliste qui est très actif. Justement, on vous a invité dans cette émission. C'est en rapport avec la fête du travail, célébrée le 1er mai de chaque année. On va essayer de faire un bilan avec vous sur les conditions des travailleurs en RDC. Vous avez commencé cette lutte depuis 90. On va en parler dans cette émission, mais avant d'en arriver, on va faire une brève biographie de votre personne. Vous êtes né au Nord Kivu.
Oui, madame.
Quand?
Le 8 février 1952.
Et c'est là où vous avez passé votre enfance au Nord Kivu?
La première petite enfance, je l'ai passée au Nord Kivu. La deuxième petite enfance, je l'ai passée dans le Nord Katanga, donc précisément à Kalemie.
Comment vous vous retrouvez à Kalemie?
Les parents avaient été mutés là-bas, dans le cadre, n'est-ce pas, des chemins de fer des Grands Lacs. Hein, je me suis retrouvé là-bas. Et j'ai continué mes études primaires là-bas.
Jusqu'aux humanités?
Non, j'ai terminé l'école primaire à Kalemie et puis j'ai commencé l'école secondaire en 65 à Kindu, au collège du Saint-Esprit.
Là aussi, c'était pour des raisons de mutation?
Bah là, je suis allé rejoindre mon oncle maternel qui y vivait. Et il avait besoin de moi. Bon, je devais accompagner, n'est-ce pas, son foyer, en vivant avec lui jusqu'à ce que j'ai tenu les humanités en 71.
Vous avez fait quelles études aux humanités?
J'ai fait les humanités scientifiques et biochimie.
Oui. Vous rêviez de devenir médecin un jour?
Quand j'ai terminé les humanités, madame, c'est curieux, je rêvais d'être ingénieur. Mais je suis allé effectivement à Lubumbashi, au campus de Lubumbashi. Bon, c'était au moment de la réforme, la création de l'UNASA. Et j'ai commencé par la polytechnique, où j'ai passé 2 ans sans succès, j'ai répété, et finalement j'ai dit non, je vais faire des sciences sociales. C'est comme ça que j'ai embrassé la sociologie et je suis aujourd'hui sociologue.
Vous avez donc une licence en sociologie de l'université de Lubumbashi?
Tout à fait, madame.
Vous regrettez un peu de n'avoir pas fait ce que vous vouliez au départ?
Bien, vous savez, les conditions à l'époque, bon, nous étions un peu avec une certaine domination de l'Union minière du Haut-Katanga, c'était un rêve, et que les conditions de passage pour terminer dans la faculté polytechnique, notamment l'option mine, métallurgie, c'était pas facile. Donc, nous avons été butés au fait que, malgré, n'est-ce pas, l'ambition que nous avions, il fallait peut-être y passer 10 ans, 20 ans pour devenir finalement ingénieur, sinon abandonner. Donc, nous avons cru que c'était bon, comme nous avions encore l'opportunité, n'est-ce pas, de faire d'autres choix. Nous avons opté pour la sociologie.
Pourquoi la sociologie?
Bon, c'est arrivé comme ça. Je ne sais pas comment, par l'influence des amis qui y étaient, et comme nous habitions le même bloc universitaire, j'ai pensé les suivre. Et c'est comme ça que j'ai embrassé la sociologie.
Et aujourd'hui, vous vous sentez satisfait, avec bien, votre diplôme de sociologie?
Je crois que je suis très très satisfait parce que, non seulement que c'était un destin, mais également j'ai eu à faire beaucoup de choses. D'abord, je suis enseignant, je suis chef de travaux, tel que vous me voyez ici, je suis un grand chercheur, j'ai effectué beaucoup de visite dans d'autres pays, j'ai constaté.
Dans les cadres de vos recherches?
Oui, d'abord comme chercheur et ensuite comme syndicaliste. Donc j'ai fait beaucoup, je connais beaucoup les réalités de beaucoup de pays et ça m'a permis, n'est-ce pas, d'avoir une vision claire sur notamment les défis de notre pays. Et c'est en cela que je suis très très fier d'être sociologue.
Et ce sont ces voyages à l'extérieur qui vous ont motivé, qui vous ont poussé à vous lancer ou à devenir syndicaliste?
Une partie, oui. C'est-à-dire que lorsque nous avons eu à suivre, n'est-ce pas, les enseignements de développement dans certains pays européens et du Moyen-Orient, nous avons estimé qu'on ne peut pas faire un développement sérieux au regard des ressources naturelles de notre pays si on n'est pas aussi défenseur des droits. Ça, parce que le grand problème que nous avons ici, c'est la défense des droits pour la promotion des travailleurs congolais. C'est pour ça que nous avons, au retour, quelques années après, à l'ouverture du pluralisme politique et syndical, nous avons estimé qu'au lieu de faire la politique, il y avait une voie idoine pour nous, c'était de faire le syndicalisme.
C'est en 90 que vous vous lancez dans le syndicalisme.
Oui, madame.
On va y revenir. Alors, Rachidi Kayombo, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ce que je n'aime pas dans la vie, c'est les mensonges, l'injustice. Et également, je peux dire ici que la démagogie, en tout cas, je n'adore pas. Hein, j'aime aller tout droit, j'aime l'excellence. Voilà un peu ce que je veux. Tout ce que je recherche dans ma vie, c'est vouloir absolument obtenir des résultats. Hein, donc, on s'est engagé dans une affaire, dans une option donnée, hein, dans la vie, il faut quand même qu'il y ait des résultats. Parce que nous sommes tous des passagers sur cette terre. Nous devons quand même, pour les générations à venir, laisser des traces. C'est un peu ça que je veux. Donc, le mensonge, l'injustice, la discrimination, tout ça, je déteste.
C'est quoi votre plat préféré?
Mon plat préféré, c'est la banane plantée, madame, avec du poisson. Mm-hmm. Et du poisson et du fleuve.
Sportif, Rachidi?
Bien, j'aimais bien Mazembe, madame. Vous savez que j'ai été déçu. C'était en 1977. Je me rappelle encore de la date. C'était le 8 mars 1977. Je me retrouvais au stade de la Kenya. Hein, où Mazembe devait jouer contre l'Homme 1. Et Mazembe, après des efforts fournis en quittant les campus là-bas, la Kasapa, pour arriver à Kenya, j'entre dans le stade, les pantalons déchirés, la chemise est partie, et la montre est partie sans souliers, et Mazembe perd. Depuis ce jour-là, j'ai détesté le sport. Alors, pourtant, je l'adore beaucoup. Mais cependant...
Vous arrivez au stade avec des habits déchirés?
Ou bien, je n'avais plus d'habits, madame. Il restait qu'une petite partie du pantalon.
Vous étiez allé où?
Non, la bousculade pour entrer au stade. C'est ça, c'était véritablement une bagarre. Mm-hmm. Tout le monde voulait y entrer. Alors il fallait être fort physiquement pour y entrer. C'est ce jour-là que j'ai détesté le sport. Du moins, j'aime le sport, le football, mais aller au stade, ça, je ne peux plus. Et depuis lors, j'ai préféré le tennis de table. Donc, en tout cas, hein, le football, le basketball que j'adorais dans le passé... J'ai pris un peu de distance.
Maintenant, c'est le tennis de table.
Le tennis de table.
Vous jouez vous-même?
Oui, je suis un excellent joueur.
Ok. On va tester ça?
Oui, un jour.
Ok, il n'y a pas de souci.
Ok.
Merci. Alors, moi, je t'ai dit, Kayombo, vous mariez?
Je suis marié, père de 6 enfants.
Dites-nous, vous avez grandi dans quelles conditions?
Bah, moi, j'ai eu des parents qui n'étaient pas dans les conditions très, très, très hautes. Mais j'ai plus vécu avec mon oncle maternel et plus la famille des amis. Hein, j'ai vécu un peu comme un peu un débrouillard là, un peu un singleton, parce que l'oncle malheureusement qui m'a élevé n'avait jamais eu d'enfant jusqu'à sa mort. Donc j'étais l'enfant chéri, hein, j'avais tout. Donc vraiment dans les très bonnes conditions, hein, la petite enfance, bon, moi je n'avais pas envié quelqu'un. J'étais très très bien.
Mais vous êtes quand même l'un de vos parents.
Très très l'un de mes parents. Pendant longtemps. D'ailleurs, lesquels parents je les ai redécouverts en 82. Donc, c'est-à-dire après avoir terminé l'université, après avoir été engagé comme assistant à l'université.
C'est quand vous avez retrouvé, vous êtes rentré pour voir vos parents?
Non, non, j'ai fait appel à mes parents parce qu'ils devaient me rejoindre à Kisangani, l'université de Kisangani où j'étais. Et je devais quand même les voir, hein, mm-hmm. pour passer un bon petit moment avec mes parents, hein, un peu réchauffer les... Hein, comment je pourrais...
C'est bien, alors. Alors, Rachidi, Modeste Rachidi Kayombo Banyangiri, votre nom a une signification particulière?
Oui, mon prénom, mon poste nom là, Banyangiri, a une signification terrible. C'est-à-dire, un rejeton, vous croyez que vous l'avez jeté pour toujours évaporir, mais là où vous le jetez, il renaît de nouveau. C'est ça, la signification dans ma langue maternelle. De ce poste, non. C'est le nom même de mon grand-père, c'est-à-dire le père de mon père à moi.
Et voilà. C'est un peu votre... Ça traduit un peu votre caractère.
Oui, il semble que j'ai vraiment épousé 90% de son caractère. Mm-hmm. Il semble que c'est ça. Surtout que je suis l'aîné de la famille. Hein, c'est ça, c'est un peu ça. Bon, on m'a collé son nom et le nom vraiment a des rapprochements avec la figuration et l'homme, la personnalité de mon grand-père.
Et donc, lorsque les gens pensent vous avoir écrasé, on vous donne la force de pouvoir réapparaître.
Oui, c'est-à-dire que mon père m'a toujours enseigné, quand je suis jeune, j'étais jeune, il me disait qu'il faut te comporter comme un orphelin, ne jamais attendre des cadeaux, c'est par l'effort que vous allez pouvoir vous affirmer comme personne humaine. Et j'ai épousé, n'est-ce pas, cette philosophie. Et je crois que même les postes noms qu'on m'a collés ressemblent bien à cette philosophie. Ça colle bien. Et jusque-là, bon, moi je n'ai pas l'habitude de me plaindre. Je constate qu'il y a un défi. Et dans la mesure du possible, nous nous mettons au travail pour voir dans quelle mesure on peut trouver, soit par un dialogue, soit par une compétition, une solution à ces problèmes.
Pour tous les auditeurs des Radio Capi qui viennent de nous rejoindre, Grand Témoin vous présente aujourd'hui Modeste Rachidi Kayumbo Banyangiri. Il est secrétaire général du syndicat central congolaise du travail et porte-parole des syndicats indépendants de l'administration publique. On avait déjà commencé à évoquer la motivation ou ce qui vous a poussé à vous lancer dans le syndicalisme. Vous nous avez dit que vous avez commencé ce combat en 1990 lors de l'ouverture démocratique. Est-ce qu'en ce moment-là, les travailleurs éprouvaient beaucoup de difficultés dans leur travail, dans leur environnement?
Bien, il faut d'abord dire que lorsque j'ai rentré de l'étranger, j'ai trouvé ici une campagne du président, feu président Mobutu, qu'on appelait la consultation populaire. Eh bien, déjà à ce moment-là, il y avait des remous. Hein, de plus en plus, avec la vague de la perestroïka qui s'annonçait, hein, les gens commençaient à libérer un peu la parole. Donc on pouvait dire ce qu'on pouvait penser. Et parmi mes anciens condisciples, parce que j'en ai beaucoup, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend de quel camp on se trouve, il y avait beaucoup qui travaillaient dans les sillages de M. Mobutu, qui, eux, voulaient me capturer pour m'amener dans ces sillages. Et moi, j'ai estimé que comme on allait vers les années 90, je ne pouvais pas, de manière, n'est-ce pas, sans trop connaître ce qui s'est passé dedans, hein, y entrer. Hein, bon. Et je me suis réservé. Et j'ai attendu justement l'occasion de l'explosion. Et on peut aussi appeler implosion. Dieu Nteza étant malade, les travailleurs grondent. Bon, moi j'ai trouvé que c'était les champs. Pour moi, c'était les champs qui m'intéressaient. C'est ainsi que, lorsque, après le discours, on va créer les premiers syndicats, je vais m'intéresser au syndicat Confédération démocratique du travail, CDT. Petit à petit, je vais, à cause, n'est-ce pas, de la confiance qu'on me faisait, je vais commencer à occuper certains postes au sommet, jusqu'à devenir responsable de la formation syndicale. Donc, pendant 9 ans, je ne faisais que faire l'éducation ouvrière.
C'est-à-dire quoi, l'éducation ouvrière?
C'est-à-dire donner aux travailleurs les mécanismes de pouvoir se vivre dans le pluralisme syndical. N'est-ce pas? L'organisation du syndicat, le rôle et la mission du syndicat, la place du syndicat dans un environnement pluraliste. C'est ça l'éducation ouvrière. Comment défendre l'outil de travail, hein? Comment défendre la liberté syndicale? Donc tout ça, c'est ce que je faisais pendant 9 ans au sein de cette organisation syndicale. Et à l'issue, n'est-ce pas, de ces 9 ans, il n'était plus possible que je sois là-bas.
Pourquoi?
Bon, il y a eu divergence de vues en interne, et nous nous sommes détachés, un groupe, nous nous sommes détachés, n'est-ce pas, des autres.
Pour créer un autre
pour
syndicat.
Pour créer un autre syndicat qui vous a dénommé Centrale Congolais du Travail. Nous l'avions créé donc en 2000, en l'an 2000, il est là jusqu'au jour.
En l'an 2000, avec d'autres syndicalistes.
Certains membres de la CDT sont venus avec moi.
C'est, ouais.
CDT, c'est la Confédération démocratique du travail.
Du travail, oui.
Hein, sont venus avec moi.
Mais c'était quoi la pomme des discordes?
La pomme des discordes, c'est...
Très souvent, ça tourne autour de l'argent.
Non, ce n'était pas... Heureusement, cette fois-là, ce n'était pas ça. Le problème, c'était un peu de jalousie. Et ça arrive. Je viens de dire ici au début que...
Jalousie entre vous?
Oui, entre nous. Parce que moi, je n'ai pas embrassé le syndicalisme comme un néophyte. Moi, j'ai enseigner le syndicalisme. Je suis sociologue de formation, je vous le dis. J'ai fait mon stage à la GECAMIN. Hein? D'ailleurs, le thème de mon mémoire de fin d'études, hein? Le mécanisme d'intégration des ouvriers, hein? Mineurs de la mine de Kipushi. Donc, je connaissais déjà les problèmes des travailleurs pendant que j'étais étudiant. Donc, le fait qu'on m'ait donné, n'est-ce pas, la responsabilité d'assurer la formation ouvrière, ça n'a pas plu à certains. C'est comme ça que ceux qui étaient d'accord avec moi ont estimé que nous pourrions bien nous séparer et évoluer autrement, étant donné que les visions, là ça s'est dessiné très bien, et jusqu'aujourd'hui on est en train de vivre cela, les visions sont différentes. On fait le syndicalisme pas pour un enrichissement des individus, mais c'est pour vraiment l'élévation de la conscience des travailleurs. Lorsque nous observons très bien Hein, comme il n'y a peut-être pas beaucoup d'emplois dans ce pays, certains ont cru que on doit faire le sénégalisme pour se faire, pour attraper un peu d'argent.
Est-ce que c'est faux, monsieur Rachidi?
Et c'est un phénomène humain, madame. C'est partout au monde, dans toutes les sociétés, vous avez des gens pareils, des déviationnistes, ça existe. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le détenteur du droit, lui, doit savoir faire un bon choix. Choisir qui va les défendre valablement. Mais si vous faites un mauvais choix, mais vous serez trompé par quelqu'un. Les sorciers se trouvent dans tous les villages du monde, madame. Ne vous trompez pas. Donc, il ne faut pas dire que c'est seulement au Zaïre, enfin au Congo ici, qu'il y a des syndicats qui sont corrompus. Même en Europe, on vit ça. Les traîtres, mais il y en a partout.
Et vous, votre syndicat, la Centrale Congolaise du Travail, vous défendez vraiment les droits des travailleurs?
Je crois que jusque-là, à moins qu'on dise le contraire, et je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui peut démontrer le contraire, jusque-là, nous tenons bon. Nous avons notre représentation, faible représentation, mais en tout cas, du point de vue de résistance, du point de vue moral, hein, il n'y a pas de critiques qu'on peut nous faire jusqu'aujourd'hui.
Mais certains travailleurs, vous êtes tous quand même de flirter. Bon, flirter, c'est un peu fort. De travailler un peu avec le pouvoir.
Bien, je crois qu'il y a deux choses à dire à ce sujet. La première est que moi, je n'ai jamais fait ça. Je tiens beaucoup à ma crédibilité. Cependant, vous devez savoir que lorsque vous vivez dans le pluralisme, il y a ce qu'on appelle l'âge de la majorité. Vous n'allez pas avoir l'unanimité partout et dans toutes les circonstances. Donc, lorsque nous passons dans les débats, dans les discussions internes, vous avez des choix. Hein? Et lorsque moi, par exemple, qui ai eu plusieurs fois l'occasion, n'est-ce pas, d'être le porte-parole d'un groupe, mais je dois faire l'équilibre pour qu'il n'y ait pas de division parmi nous. Parce que qu'est-ce que l'employeur cherche? Il cherche la division pour affaiblir. Bon, nous avons veillé à tout prix, n'est-ce pas, de sauvegarder l'unité, mais il s'est fait malheureusement que les fissures apparaissent toujours. Et c'est l'employeur qui gagne. Si vous examinez aujourd'hui les conditions de travail, n'est-ce pas, les conditions de vie des Congolais, en général, que ce soit dans les secteurs privés ou publics, mais c'est le fait de la division entre syndicats et la division entre travailleurs. Le mot fétiche au syndicat, c'est la solidarité. Seul, on ne peut rien. Mais si vous êtes tous rangés derrière un objectif, vous allez absolument réussir. C'est comme ça que nous nous sommes donné, n'est-ce pas, un slogan pour dire « Tous les fonctionnaires ensemble, l'impossible devient possible. » Mais si on est divisé. Alors, donc, quand vous jouez le rôle de leader, vous devez savoir concilier les points de vue, faire des choix appropriés et faire avancer les choses. Et ensuite, sachez que on ne réussit pas tout à tout moment. Il faut aussi tenir compte du contexte général, politique et économique. Mais cependant, lorsque les travailleurs nous donnent le mandat d'aller négocier, ils croient qu'on peut trouver tout au même moment. Non. Il y a des moments où il y a lieu de négocier avec les échéances, avec l'employeur, pour voir si les conditions à ce moment-là seront réunies. Ça, c'est aussi une chose que les travailleurs doivent savoir. C'est vrai que la situation du Congo, la crise est devenue très profonde, mais pour y sortir, il y a des étapes à franchir. Il y a même des choix stratégiques à faire. Mais cependant, nous avons observé que les Congolais, ils sont trop pressés. Ils ne savent pas quelle a été la profondeur du trou dans lequel nous sommes. Eh bien, nous devons y aller avec méthode.
Mais depuis que vous avez commencé cette lutte pour que les droits des travailleurs soient respectés, est-ce qu'il y a une évolution positive? Est-ce que ça stagne? Est-ce que c'est le statu quo? Ça ne change pas? Les conditions des travailleurs ne changent pas?
Bon, ne changent pas. Il faut plutôt dire que les conditions changent négativement.
Négativement?
Ah oui, vous allez vous rendre compte, madame. Je vais vous dire deux ou trois choses. Vous allez vous rendre compte que les conditions changent négativement. Aujourd'hui, un Congolais moyen touche combien? Formellement. Est-ce qu'avec ce qu'il touche, il peut vivre? Alors que hier, il touchait peut-être moins en termes formels, mais il ne payait pas les études de ses enfants. Il était pris en charge du point de vue soins médicaux. Hein? Il avait l'électricité, l'accès à l'électricité facile. Il avait l'eau potable. Aujourd'hui, même l'eau potable, on commence à acheter. Donc, il faut débourser. N'est-ce pas? Donc, du point de vue pouvoir d'achat, les Congolais ont reculé. Un. Deuxièmement, il y a très peu de gens qui sont au-delà, n'est-ce pas, du seuil de pauvreté. Hein? Et ça donne l'impression que les Congolais vivent mieux. Mais c'est quel pourcentage? Moi, d'après les statistiques que je dispose, il n'y a que 1% des Congolais qui peuvent vivre à l'abri des problèmes. Si nous tenons compte de la croissance en termes, n'est-ce pas, démographiques, et nous prenons le nombre d'étudiants, de nos enfants qui terminent l'université, combien peuvent attraper l'emploi à l'issue de leurs études? Donc, les emplois sont devenus rares. Presque rares. Et pour les avoir, il faut utiliser les astuces, la corruption, le népotisme, le clientélisme, le régionalisme, le clanisme. Hein? Donc, nous sommes devenus, nous avons fait un grand gâteau, donc une portion de la population, donc des leaders, et notamment politiciens, se partagent et on a l'impression que le Congo avance. Non, le Congo a beaucoup reculé. C'est à travers, n'est-ce pas, les écarts qui existent entre les plus riches et les plus pauvres, hein, qu'on peut dire qu'il y a équilibre et que ceux qui sont de la classe moyenne peuvent donner de l'emploi à ceux qui sont à la classe la plus basse et l'économie peut tourner. Aujourd'hui, nous n'avons pas tout ça. Comptez le nombre de classes et même le nombre de...
C'est quand même un échec pour vous qui êtes syndicaliste.
C'est un échec vraiment global parce que les défis majeurs, hein, qui nous devions, n'est-ce pas, relever, ne sont pas relevés. L'ajustement structurel, vous avez suivi il y a 4 à 5 ans ici, on nous a amené les copyrights, on a dit, hein, on doit faire réformer les entreprises de l'État. Lesquelles entreprises, on les appelait dans la décennie 80, les canards boiteux. Mais tous les politiciens sérieux sur ça partagent les responsabilités. Mais les travailleurs abandonnent parce que c'est un frère qu'on a mis PDG, il voit qu'il va être sauvé seul. C'est là, il pompe l'argent, il s'en va. Hein, le successeur vient aussi à son tour, il pompe, c'est son tour, c'est comme ça qu'on dit, laissez c'est notre tour, celui qui était là, qu'est-ce que vous avez fait? Non, ça revient, chacun à son tour pour venir piller. Non, les canards boiteux d'hier, on va les vendre à vil prix. C'est-à-dire, on a détruit les tissus industriels, donc les tissus économiques du pays, donc il n'y aura pas d'emploi décent. Donc chaque année ici on revient, même l'année passée vous avez organisé des émissions ici, hein, les travail décent. Il n'y a pas de travail décent. Peut-être pour 0,5% de la population congolaise. Non, il y a donc des défis majeurs.
Qu'est-ce que vous entendez par travail décent?
Le travail décent, c'est le travail qui procure à manger, qui peut permettre au travailleur, n'est-ce pas, de satisfaire à ses besoins primaires et espérer avoir une épargne d'au moins 20% pour qu'à la fin de sa carrière, il soit à l'abri des besoins. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que même parmi les fonctionnaires, même parmi les travailleurs, dès qu'il a atteint l'âge de la retraite, il ne peut plus aller à la retraite. Il cherche même des fétiches pour y rester, y demeurer encore 10 ans. Pourquoi? Parce que on n'a pas organisé la vie après la carrière. Voilà un déficit majeur. Et ce serait ça les combats des syndicalistes. Parce que lorsqu'on a assuré la pré-carrière, ceux qui sont en cours de carrière peuvent dire, bon, je ne peux pas voler. Deux, il doit respecter ma carrière parce que je ne peux pas commettre des fautes, parce qu'il faut que je mérite ce que je dois mériter à la fin de la carrière. Donc, l'esprit de mérite a été rasé dans ce pays. Même pour occuper un poste, ce n'est plus la qualité professionnelle. Donc, l'excellence, c'est plutôt une faveur. Donc, un pays comme ça, c'est un pays dont les syndicats devaient prendre la relève pour corriger les erreurs.
Alors, les syndicats défendent les droits des travailleurs, mais est-ce que les travailleurs congolais connaissent leurs droits?
Mais c'est ça justement le problème, madame. Il faut vous dire que si quelqu'un ne connaît pas, il est ignorant, mais il va faire quoi? Il fera de la barbarie. Les travailleurs qui devaient être encadrés par les syndicats, les permanents syndicaux, eux recherchent le bien-être, la survie. Donc, ils oublient leur mission primaire. Et même lorsque le gouvernement donne des subsides aux syndicats, parce que ça peut arriver, mais il n'y a pas de contraintes. On donne des subsides pour des objectifs précis. Donc, nous y allons, nous tanguons comme ça, à vue. Hein? Donc, c'est un pays perdu, sans repères. Aujourd'hui, qui peut me dire qu'il y a des repères sociaux crédibles dans ce pays? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, donc, nous pensons qu'il faut une nouvelle classe de syndicats. Il est important de souligner...
Là où vous avez failli quand même à votre mission, parce que vous devez aussi aider ces travailleurs-là, c'est aussi un des rôles des syndicats, d'aider ces travailleurs-là à connaître leurs droits.
Oui, nous faisons ce travail, mais combien y a-t-il, dans quel contexte de tiraillement politique, où nous avons parfois des décisions qui tombent du ciel, on ne consulte personne. Je vais vous donner un exemple simple. On a voulu, à un moment donné, réformer l'entreprise. N'est-ce pas? On a appelé les syndicats clients. Excusez-moi de les appeler ainsi, les syndicats clients. Donc, ils acceptent pourvu que les PRM tombent à la fin de la réunion. N'est-ce pas? Mais les intérêts ont été bradés. Ils se sont retrouvés, ils sont allés. Mais les travailleurs ont commencé à connaître, n'est-ce pas, mise à l'écart. Congé, provisoire, en attendant la... C'est le cas de l'AMIBA. L'AMIBA est aussi par terre. Aujourd'hui, par terre. Parce qu'on n'a pas fait de prévision. Le syndicat n'a pas encadré la réforme. Le syndicat n'a pas seulement à protéger les intérêts des travailleurs, au sens, n'est-ce pas, primaire, mais aussi du type de travail. Quelles sont les projections qu'on fait pour une entreprise? Pour que cette entreprise-là garantisse. Mais les soucis des syndicalistes, parce que tout le monde est devenu syndicaliste dans ce pays, il suffit de bien parler, ou d'avoir le courage de parler, on devient syndicaliste. Mais il y a des normes. Nous ne pouvons plus vivre le syndicalisme de l'époque coloniale. Là-bas, toutes les règles étaient déjà établies. On savait quelle serait peut-être la durée optimale de la vie d'une entreprise. Quand est-ce que les ressources peuvent éventuellement s'épuiser pour commencer un plan de redressement. Mais aujourd'hui, nous avons des syndicats qui n'ont pas de bureaux d'études. Mais comment voulez-vous, n'est-ce pas, faire la prospective? Donc imaginez ce qui va venir demain pour commencer à prendre des garde-fous. L'éducation ouvrière, c'est permettre aux travailleurs d'être attentifs, d'être les sentinelles de leur outil de travail. Parce que c'est l'outil de travail qui leur procure les moyens de survie. Non. Si l'outil de travail devient la chose de tout, laissé au hasard des politiciens ou de certains syndicalistes, eh bien, l'outil de travail va connaître, n'est-ce pas, une gestion catastrophique.
25 ans que vous êtes syndicaliste aujourd'hui, Rachidi Kayombo, vous n'êtes pas fatigué?
Non. Je ne dis pas que je ne suis pas fatigué, je suis fatigué ou je ne suis pas fatigué, mais je dis les idées, les syndicats, c'est un peu comme la religion. Ce sont les idéaux qui conduisent. Tant que je sais communiquer, tant que je sais écrire, je crois que je ne suis pas encore fatigué. Parce que mon rôle premier, parce qu'il faut peut-être rappeler ça, le rôle du syndicaliste, c'est d'abord d'éduquer les détenteurs du droit. Ce n'est pas le syndicaliste qui est détenteur du droit, c'est le travailleur qui est détenteur du droit. Il faut l'éduquer, l'encadrer. Donc, si je peux encore donner, n'est-ce pas, une connaissance dans la défense des droits, si je peux encore écrire, n'est-ce pas, pour défendre tel travailleur qui est dans une situation un peu malaisée, eh bien, je continue. Je continue avec les syndicats. C'est un idéal pour moi.
Alors, Rachidi Kayombo, c'est un idéal pour vous, le syndicat. On va souffler un peu. Comment vous passez vos moments de détente?
Bon, c'est aussi une question intéressante, madame.
Vous savez que peut-être moi, aller jouer au tennis de table.
Tennis de table, livre. Je suis tout le
vous
temps...
Vous lisez beaucoup.
Bon. C'est ça, mon travail. Et peut-être que c'est un peu ça qui fait qu'on dise que je parle beaucoup, parce que j'ai un peu de connaissances dans beaucoup de domaines. Mm-hmm. Un peu.
Un peu. Vous touchez à tout, quoi.
Oui. J'ai eu l'opportunité d'entrer dans tout ça, dans l'économie, dans le droit, dans la sociologie, même dans l'agronomie, madame. J'ai fait aussi l'agronomie.
Ok. C'est pas mauvais, hein. C'est bien.
La psychologie, tout. Alors, j'ai lu beaucoup et ça me passionne. Et de temps en temps, j'ai fait une petite rupture, je vais jouer au tennis de table, je rentre manger et je m'endors.
Vous écoutez aussi la musique, ça vous arrive?
Bon, la musique, je crois que je peux dire que ça ne m'intéresse pas beaucoup parce qu'elle est incompatible avec la lecture. Ça me distrait.
Comment ça?
En tout cas, moi, je dois être loin de la musique pour que je me concentre.
Donc, pour votre moment de plaisir, c'est lecture, tennis de table?
Ouais, c'est ça. C'est tout ce que j'ai fait.
Ok.
Tous les jours. À moins que je sois malade. C'est ça.
Alors bon, on va quand même vous proposer une chanson, hein.
Ouais.
C'est la devise dans cette émission.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter?
Bon, est-ce qu'il y a une musique qui parle d'un défi? Bon, tu vois, la musique comme Ebale Azaïr. Oui, Ebale Azaïr, 71, c'est 71, hein. Ça, ce sont les choses qui peuvent...
Ebale Azaïr.
Ouais. Vous vous souvenez encore de ça?
Ça me dit quelque chose.
C'est l'histoire.
Dit qu'il est d'Adi, Ebale Azaïr, c'est de qui déjà là?
Ça, c'est un autre.
Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, merci DJ. Donc, il me dit que c'est... ok, Jazz, avec Samangwana, voilà. Paul, ma dernière main, est-ce que tu peux nous balancer un extrait de cette chanson pour le plaisir de Monsieur Rachidi qui est avec nous dans ce studio et aussi pour le plaisir de tous les auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment partout à l'RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Ma soie, yo ano venir la ngolwa, oye ba. Na kuzela. Ma soie konana lo se ba ebeti. Ma soie konana boningo penani. Masu e fungi ona kati alondende Bolingo mpe fungi ona kati alondende Ngaina libongo na lelio mboleo Sheri okende ke malabu mboleo Elaka okome la kangaso ki okomi Na eba bolingo bosa ninga ifeo Nandi ma bolingo atande loko zonga Nazali seko zela mokolo masue kozonga Gaya wao atansango ya pamba jani ho mama Devale matinda e kapinga mbo Matite kochola babwate kochola Kasi bolingo nangai enani seko nana Nazali seko zela mokolo masue kozonga Gaya wao Nabeli basusi ya la mulo ho Lelo na kanisi yo mingi jani Nase ya kuitio na bandide kolota Yola nisi moto na lipe kanangani Oyo beningai nilo banamu alikukuma Zizwa nyo, zoto ya kwicho, mawa minjo bolingo ezanga misoro moto yokolinga akolinga yo te oyo koboya akolinga yo mingio oyo kosima akolanda yo mingio etumbo oya bampasi ya lambulu mama minalewa o mama mama nakokufa o mama yeah.
J'espère que cette chanson vous a fait plaisir, Modeste Rachidi Kayombo. J'espère également qu'elle a fait plaisir à tous ces auditeurs de Radio Okapi qui sont nombreux à nous suivre en ce moment partout en RDC sur la fréquence FM. Et ceux qui sont à l'étranger, vous avez la possibilité de nous suivre sur www.radiookapi.net.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Modeste Rachidi Kayombo, Bani Angiri est celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui, le secrétaire général du syndicat central congolais du travail et porte-parole des syndicats indépendants de l'administration publique. Le 1er mai de chaque année, le monde célèbre la journée du travail, c'est la fête du travail. Certains travailleurs en RDC depuis un certain temps estiment qu'on n'a pas besoin de fêter ça ici chez nous. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais je vois qu'ils ont parfaitement raison. Ceux-là qui ont décidé cela. Parce qu'on défile pourquoi? C'est pour exprimer une joie. Mais les conditions étant celles-là, pourquoi défiler? Normalement, lorsqu'on a consacré, n'est-ce pas, la fête du 1er mai, c'était pour que les travailleurs, n'est-ce pas, fêtent ou célèbrent les résultats de leur lutte. Nous, nous avons cessé de lutter. Nous n'avons pas de syndicats et nous n'avons pas d'employeurs qui ont...
n'avons pas de syndicats, mais vous faites quoi?
Bon, quand je parle de syndicats, c'est-à-dire la force pour faire des conquêtes. Je ne parle pas que de l'organisation comme structure. Je parle de syndicats, c'est-à-dire la force. Là où il y a des syndicats, madame, on sent. Le gouvernement ne peut pas bouger. Vous bougez, vous partez. Mais chez nous, il n'y a rien. On croit qu'on veut attaquer tel parce qu'il est le frère de tel, parce que c'est l'ami de tel ou parce que c'est le beau frère. Non, les droits restent les droits. Ils sont des droits collectifs qu'on doit défendre et chacun doit se soumettre à cette discipline. Donc, quand je dis qu'il n'y a pas de syndicat, c'est ça. Donc, si nous nous retrouvons par exemple le 1er mai, c'est pour célébrer quoi? Quelle victoire nous avons? Aucune victoire! Alors nous y allons pour passer devant un autre employeur. Pour lui dire quoi? Que nous sommes soumis? C'est ça. Nous devons quitter le paternalisme pour rentrer dans les stratégies.
Et c'est ça le monde moderne. Cette journée dans la méditation.
Ah oui, mais
selon vous?
Normalement, c'est ça. Mais moi, je n'aime pas souvent la méditation, madame. Moi, j'aime des rencontres avec différents groupes pour se poser la question de savoir pourquoi cette misère noire? Pourquoi cet état de précarité continue? Pourquoi nous ne pouvons pas changer le Congo du point de vue moins travail? C'est ça. Mais quand on va dans la méditation, c'est chacun sur son lit. Là, ça ne va pas. Et défiler, en tout cas, ceux qui ont pris la décision de ne pas défiler, je crois qu'il faut les saluer. C'est un peu déjà un pas. Il n'est pas question, et je vous dis que le regroupement que moi je suis en train de conduire ne va pas accepter de défiler pour aller célébrer la misère. Pour aller célébrer les conditions infrahumaines, pour aller célébrer tout simplement le mauvais partage des richesses nationales. Donc en violation de la Constitution. Nous ne pouvons pas accepter ça.
Alors, qu'est-ce qu'il faut, Rachidi, pour que les travailleurs congolais soient pris en compte, soient considérés, que ces droits soient respectés?
Bah, il y a plusieurs propositions qui sont données. Il y en a qui ont parlé à un moment donné des regroupements. Hein, il y en a qui ont parlé, n'est-ce pas, des élections syndicales. Et il y en a qui ont dit, bon, écoutez, il faut laisser la libre expression. Hein, comme ça, on verra que les meilleurs gagnent et que les travailleurs fassent des choix appropriés, donc efficaces. Bon, c'est un parcours de l'histoire. Chaque peuple mérite aussi ses bêtises et ses prouesses. Donc, tant que les Congolais, les travailleurs congolais, ne comprendront pas qu'il faut se battre pour l'intérêt collectif, l'intérêt général, qu'il faut se battre pour ne pas endetter le pays pour rien en enrichissant une poignée d'individus, qu'il faut se battre pour construire des tissus de sécurité sociale durable, qu'il faut se battre pour que nous ayons un système d'enseignement pour garantir l'avenir, qu'il faut se battre pour avoir l'assurance maladie pour tous. Ça, jamais on n'en sortira. Mais quand on sera dans des petits combats et dire, écoutez-moi, augmentez-moi sur les salaires, je viendrai vous livrer les informations de ce qu'on dit hein, dans l'usine là-bas, nous serons encore dans la perdition. Moi, je crois que c'est possible. Hein? De plus en plus, maintenant, les travailleurs congolais ont commencé à prendre conscience. Déjà, ce que vous dites là, madame, qui nombreux ne veulent pas venir défiler le 1er mai, c'est déjà ça. Mais il faut maintenant avancer.
Oui, mais qu'est-ce que ça va changer, défiler ou pas, ça va changer quoi?
Mais ils comprendront qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est déjà ça. On n'est pas d'accord avec le gouvernement, il faut que je le dise clairement. Il n'y a pas de politique. Quel est ce gouvernement-là qui ne veut pas motiver, n'est-ce pas, les travailleurs, les citoyens congolais, à avoir des politiques sociales crédibles? Il abandonne la population comme ça au hasard. Il n'y a pas de vision sur la paix carrière. Voilà pourquoi vous avez des problèmes dans la nation publique congolaise. Il y en a tant. Nous n'avons pas une caisse de retraite. Lorsque nous avons proposé ça avec les mécanismes nationaux, non, on va rechercher les moyens pour contourner ça, pour faire de cela une caisse privée qu'eux doivent gérer politiquement. Nous disons non, ça ne se fera pas comme ça. Nous allons continuer à dénoncer jusqu'à ce que tous les travailleurs congolais comprendront que nous devons avoir des tissus de sécurité sociale crédibles.
Alors Rachidi Kayombo, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Je rappelle à tous les auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment que vous êtes secrétaire général du syndicat central congolaise du travail et porte-parole des syndicats indépendants de l'administration publique. Peut-être un petit dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent ou à tous ces travailleurs qui nous suivent à travers toute la RDC.
Je voudrais dire que si les travailleurs ne se mettent pas debout, tous, l'avenir est encore sombre. Je vous invite donc, et les invite tous, hein, à réfléchir sur les types de syndicats qu'il faut dans un pays qui est confronté, n'est-ce pas, au défi de la mondialisation et dont nous sommes sous la dictée, n'est-ce pas, de l'ajustement structurel permanent. Sinon, l'avenir de nos enfants sera davantage compromis et nous serons la risée du monde.
Merci beaucoup, Rachidi Kayombo. Merci également à Paul Badianyama qui était à la prise de son. Au micro, Kéline Kouté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.